Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpino.
Moi, Pauline Verdusier.
Avec Captain Archie.
C'est parti.
Bonjour à tous et à toutes. On est très heureuses de vous retrouver ici, même si on aurait préféré que ce soit dans la vraie vie et de pouvoir se toucher, s'embrasser, se sentir un peu plus réellement que c'est le cas. Mais bon,
j'aurais tellement aimé qu'on se voit en vrai.
On va essayer de faire le maximum. On est heureuses d'avoir avec nous une invitée, Adeline Rapon, qu'on va présenter un peu plus tard et avec laquelle on va échanger. Merci beaucoup. C'est une grande chance pour nous de t'avoir. Alors, le thème sur lequel aujourd'hui Quoi de Meuf va se pencher, c'est la question d'Instagram, c'est la question du féminisme, c'est la question du rapport au corps, c'est essayer de comprendre ce que Instagram en tant que femme nous fait et ce qu'en tant que femme nous faisons en retour à Instagram. Donc ce réseau, c'est un réseau particulier, c'est un réseau qui est particulièrement investi, c'est un réseau particulièrement populaire, et on va essayer, dans le cadre de cet épisode Quoi de Meuf, d'essayer de comprendre quel type de plateforme et Instagram, quel type de miroir est-ce que cette plateforme est devenue. On en parle en live et j'espère qu'on va surtout en parler de manière critique, tout en essayant, avec Adeline Rapon notamment, d'ouvrir des formes de brèches et d'essayer de voir comment des formes subversives d'utilisation et d'usage d'Instagram peuvent advenir. Comment vous allez ? Première question.
Bah ça va, on espère que si vous venez de vous réveiller, vous allez bien aussi, voilà. Et vous ?
Coucou ! On était en couvre-feu, je suis pas sûre que les gens se réveillent que maintenant.
À vous, ouais.
Moi, j'ai dormi comme un bébé parce que couvre-feu égale plus de voitures, plus de gens dehors. Donc, pour les Parisiens et Parisiennes qui nous regardent, ça a eu une incidence sur le sommeil. Donc, c'est pour ça que je suis outrageusement maquillée, car j'ai vraiment très bien dormi. Et toi, Kaoutar, ça va ?
Oui, ça va. Moi, je ne suis pas à Paris, je ne suis pas en zone de couvre-feu. Mais comme je suis plutôt casanière, le couvre-feu, ça n'aurait pas changé grand-chose à ma vie. Mais je suis avec vous, je suis solidaire. Dès qu'il est 21h, je pense à vous. Je ne pouvais plus mettre les pieds dehors après. Donc voilà, mais tout va bien et je suis très contente qu'on fasse ce podcast ensemble et qu'on ait pu combattre notre autre problème, à savoir la crise sanitaire. On est un peu sur tous les fronts, on va essayer de tenir tout ça ensemble.
Allez, on se lance pour parler un peu d'Instagram, Kaoutar.
Effectivement, on se lance. Alors, Pauline, Clémentine, Anne-Laure et moi-même, on est très heureuses d'être avec vous aujourd'hui pour aborder la question de l'image du corps, telle qu'Instagram la donne à voir, des enjeux féministes qui se posent dans ce contexte-là. Et pour aborder cette question à laquelle on est toutes plus ou moins confrontées, qu'on se l'avoue ou qu'on ne se l'avoue pas, qu'on l'assume ou qu'on le cache, on a décidé d'accueillir une invitée, Adeline Rapon. Donc Adeline, tu es artiste photographe en particulier, tu es une fine connaisseuse d'Instagram et tu as ces derniers temps réalisé une série de portraits en hommage aux femmes antillaises, en puisant notamment ton inspiration dans les photos de la fin du 19e siècle. En tout cas, voilà, c'est ce travail-là, moi qui ces derniers temps m'avait beaucoup marqué. Donc bienvenue Adeline et merci beaucoup d'être avec nous.
Rien d'autre à ajouter.
On va peut-être faire un petit historique d'abord.
Historique de la question.
Qu'est-ce que c'est Instagram, puisque comme on est vieille, nous, on utilise Instagram hein, plutôt que TikTok, on va pas se mentir. Peut-être Pauline, tu peux nous rappeler un peu.
Oui, alors pour faire un bref historique, c'est encore une histoire légèrement testostéronée. Instagram a été lancé en 2010 par le développeur Kevin Systrom et l'ingénieur Mike Krieger, qui sont tous deux issus de l'université de Stanford.
We created, I believe the thing that kept it growing was we created an open network. We sat down very early on in the product design process and asked ourselves, okay, do we want to be a place where you send a friend a request and you have to accept it in order to see those photos, or do we want to be open, where anyone can follow anyone? And I'm so glad we ended up choosing the open model, because now you can follow someone from Japan, you can follow, you know, a chef from New York City, you can follow your favorite celebrity, or you can follow your friends. And that, like, hadn't really been done before in photos. If you look at every photo service before then, it was basically a closed-only, friends-only network. And we were the first ones to really open that up.
Ensuite, Instagram a été racheté par Facebook en 2012 pour $1 billion. Puis, il y a eu des conflits avec Mark Zuckerberg et les deux cofondateurs ont démissionné en 2018. Ça, c'était vraiment pour faire un très bref historique avant de nous lancer dans ce qui nous intéresse rapidement.
Et tu disais, Clémentine, qu'on n'a pas fait un épisode sur TikTok parce qu'on est un peu des boomeuses, des pré-boomeuses en tout cas. Il se trouve que le réseau social, contrairement à Facebook, a rapidement été pris par la plus jeune génération, qui aujourd'hui est plutôt avec TikTok. Pourquoi ? Parce que Facebook était devenu un peu trop verbeux, peut-être parce que Twitter était trop facho, l'est toujours. Mais en tout cas, il y a eu un gros succès sur Instagram dès le début, peut-être parce qu'une image est plus efficace que 1000 mots, et on en parlera tout à l'heure, c'est peut-être un peu le cas aussi, parce qu'il y avait cette raison d'instantanéité, et parce qu'il y avait l'image, mais aussi parce qu'il y avait les hashtags. Aujourd'hui, ils sont un petit peu moins utilisés, les hashtags, mais c'est vrai que ça a été un peu important aussi pour la valorisation de ce réseau social et son utilité d'interaction entre les utilisateurs et les utilisatrices.
Ouais, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, Anne-Laure, sur la comparaison potentielle avec l'univers Facebook et l'univers Twitter. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose... Je trouve ça très juste ce que tu dis par rapport à Facebook qui serait trop verbeux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de profusion de discours comme ça, du fait que le discours, justement, n'est limité par aucune manipulation en particulier. Et Twitter, et au contraire, c'est cette espèce de resserrement absolu et donc de radicalité encore plus recherchée, encore plus encouragée. Et c'est vrai que dans cette perspective-là, il me semble que l'une des forces d'Instagram, en tout cas ce qui permettrait d'expliquer la surprésence de cette application dans notre quotidien, c'est évidemment l'image. On ne reviendra pas ici sur la question de la sémiologie de l'image et de tout ce que ça produit, mais on voit bien à quel point, par exemple, l'élément du selfie a immédiatement propulsé cette application avec évidemment des logiques. Alors souvent, on parle de logique narcissique. Je ne sais pas si le terme narcissique est le plus adapté, on en parlera, mais il y a quelque chose d'une gestuelle Instagram, d'une mise en scène, d'une cérémonie, d'une dimension aussi, bien évidemment, beaucoup plus artistique et beaucoup plus esthétisée, même si l'art ici en particulier et l'esthétique peuvent complètement cohabiter avec des logiques néolibérales, ne serait-ce que pour parler de celle-là. Donc effectivement, on a bien affaire à une plateforme, à un espace très particulier. Et c'est bien pour ça que cet espace est encore plus problématique ou en tout cas mérite encore un peu plus d'être pensé que Twitter ou Facebook.
Oui, c'est à la fois un espace où on doit s'exprimer, un business énorme. C'est une plateforme inondée aussi de marques, de placements produits, mais vont cohabiter avec tout ça des espaces aussi de l'intime, enfin en tout cas une forme d'intimité qui peut s'exprimer. Et l'arrivée des stories d'ailleurs a permis une autre expression des vécus avec une sorte de coup d'œil évanescent dans le quotidien des autres. Et on peut dire aussi sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui qu'Instagram a été un lieu d'expression peut-être pour certaines voix féministes, et notamment ce qu'on a appelé le pop féminisme, et par exemple avec des figures telles que Beyoncé, mais pas que, ça a aussi été un lieu d'expression pour d'autres voix.
Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Instagram a quand même ça en commun avec les podcasts, n'est-ce pas ? Une plateforme qui a un public plus jeune, qui n'a pas la censure des grands médias, et du coup, c'est quand même ça qui a permis l'émergence et aussi la diffusion d'une parole féministe, et notamment depuis MeToo, pour une raison très simple et très pratique, c'est qu'on a un accès direct, en fait, qui permet de faire émerger dans la sphère publique des problématiques dont on ne parlait pas forcément avant, comme la précarité menstruelle, toutes les questions autour de la maternité. Franchement, enfin, moi, j'avais jamais vu des trucs aussi graphiques que ce que j'ai vu sur Instagram à propos de l'accouchement, des placentas, des femmes qui portent des couches, du postpartum, des règles et tout ça.
Des fausses couches aussi. Récemment, il y a eu cette femme qui a posté C'était fort.
We're going to start with the absolutely heartbreaking news that Chrissy Teigen has suffered a miscarriage. She's been documenting her difficult pregnancy, particularly over the last few weeks, as she had to be on bed rest and spent time in the hospital over the past week.
Yeah, and overnight, Chris announced the awful news that they lost the baby writing.
Ouais, ouais, et aussi, après, pour la déconstruction des normes de beauté, je pense qu'on en parlera plus tard. Donc, effectivement, on voit bien que c'est un espace qui est assez ambigu, dans la mesure où Instagram va à la fois promouvoir et aussi censurer les corps, et surtout des corps féminins en les sexualisant. Mais on va en parler un peu après.
Alors, pour essayer d'organiser un peu la conversation et dessiner quelques horizons, on peut essayer de se poser quelques questions très simples. La question des féminismes, par exemple. Quels seraient les féminismes qui sont mis en avant sur la plateforme Instagram? Ça veut dire aussi questionner les usages qui en sont faits par les femmes. On peut aussi essayer de questionner ce que vous étiez plusieurs à mettre en avant, à savoir cette forme de cohabitation tranquille, intranquille, entre des discours qui sont plutôt contradictoires, à la fois des discours plutôt injonctifs et qui résonnent comme des formes de verdicts sociaux extrêmement normatifs, mais aussi des pratiques beaucoup plus subversives, beaucoup plus radicales et qui essayent de tendre vers une forme d'avant-garde des féminismes contemporains. Et on peut aussi essayer de travailler sur la question des stigmates, c'est-à-dire comment est-ce que des stigmates extrêmement ancrés dans les imaginaires sociaux, collectifs, et qui sont complètement nourris par une forme de regard masculin, font l'objet sur Instagram, soit d'une forme de renforcement, soit d'une forme au contraire de sap et de sabotage très fort. La question du corps, c'est quelque chose autour de laquelle on va beaucoup tourner. Comment est-ce que vous percevez cette question de la corporéité? Comment est-ce que vous la creuseriez?
Premier truc, c'est tout à l'heure, Clémentine, tu disais que c'était un espace non censuré. Et il est vrai qu'on peut le dire par rapport à, par exemple, je sais pas, à certains magazines féminins. Mais évidemment, il y a une énorme censure qui se met quand même en place et qui vise certains corps. Et bon, c'est évidemment toujours un peu les mêmes. Les premiers auxquels je pense, c'est évidemment les corps gros et les corps gras. C'est assez visible comment Instagram traite ces corps, c'est qu'il les censure. C'est-à-dire qu'une personne grosse qui poste une photo de son corps, qu'il soit partiellement dénudé ou pas, se retrouve souvent face à une censure. Une censure qui vient de plusieurs niveaux. Du niveau des utilisateurs et utilisatrices qui décident que cette photo les dérange et qui donc appuient sur le petit bouton du contenu dérangeant. Et du simple fait qu'il y ait un processus de censure qui vise la nudité ou en tout cas certains postes et donc les corps gros se retrouvent invisibilisés. C'est assez flippant. Il y a aussi une autre censure qui est le principe même de la force du like. Le like, il vise qui? Il vise les corps déjà validés. Des corps et des vies d'ailleurs déjà validés, hein. Des vies riches, pas des vies pauvres, des corps minces et pas des corps gros. Donc là aussi, c'est une invisibilisation. Le problème d'Instagram, c'est le rêve, le principe du rêve, c'est la vie un peu monocorde et les corps gros n'entrent pas dans ce récit-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de meufs et de militantes anti-grossophobie, je pense à certaines qui font partie du collectif Gras Politique par exemple, qui ont fait les frais de cette censure-là. Par exemple, on peut penser à Barbara Butch, DJ, qui a fait la une de Télérama, et ça c'était d'ailleurs tellement génial de voir cette une de Télérama, qui ressemblait d'ailleurs peut-être un petit peu à une photo qui pourrait être sur Instagram. Donc elle, on a fait son cheval de bataille de cette censure-là. En février dernier, elle s'est retrouvée totalement censurée par la plateforme parce qu'elle aurait enfreint les codes, les fameux codes d'utilisation qui sont relativement obscurs. Elle avait hurlé sur son compte, elle avait dit « Moi, grosse, fière et gouine, je continuerai à me battre pour la visibilité de tous, les corps sur les réseaux sociaux et dans les médias. » Pour tous les corps sur les réseaux sociaux et dans tous les médias.
Plus il y a de peau, plus il y a de surface, et plus la photo risque d'être censurée parce qu'elle est considérée comme nudité ou acte pornographique. Forcément, il y a une limite hein, à ce taux, et les personnes grosses dépassent cette limite. Donc elles sont quasiment automatiquement censurées.
Elle a plus ou moins réussi son pari puisqu'elle a été invitée dans les locaux d'Instagram pour discuter de ce qu'elle avait subi et elle a eu des promesses que cela ne se referait pas. Mais bon, en l'occurrence, depuis, d'autres personnes ont subi une autre invisibilisation. Et il y a certaines personnes qui essaient de proposer un contre-courant à cette censure-là, donc qui d'autant plus postent des photos d'eux et d'elle sur les réseaux sociaux. Je pense à, par exemple, Wolverine Spee, qui est une militante grossophobie et qui poste régulièrement des photos d'elle. Et je pense aussi à la blogueuse qui est aussi ambassadrice Dove. Donc c'est, on en parlera plus tard, mais c'est toujours ça qui est intéressant avec ce réseau social, c'est que ça va de l'un à l'autre. Stéphanie Vicky, elle a posté une photo d'elle et elle dit « J'ai 11 ans, j'ai l'air heureuse, pourtant je ne le suis pas totalement, je me déteste, je hais mon corps et je le trouve gros, immonde, difforme. » Donc elle explique son ressenti de petite fille qui subit les injonctions de la société. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle raconte comment cette pensée a été construite dans sa vie. Et elle termine par, justement, et c'est ça la force de ce réseau social, une question aux personnes qui la suivent. Et vous, comment vous vous êtes sentie? Et vous, est-ce que vous pouvez témoigner de choses similaires ou différentes? Elle invite les gens à poster leur témoignage avec le hashtag « Je suis unique ». Et ce, voilà, encore une fois, ce post a été liké par 7000 personnes. Et donc, ça montre voilà, la puissance de ce réseau social aussi. Tu soulignes, Anne-Laure, sur la domination qui est subie par les personnes dont le corps s'éloigne des stéréotypes en termes notamment de taille, de mesure, d'apparence, etc. C'est évidemment quelque chose qu'on peut assez fortement rapprocher de l'expérience qui est vécue par les personnes racisées. Donc, c'est-à-dire par les personnes qui sont susceptibles de vivre des formes de discrimination raciale. Et à ce titre-là, on peut notamment évoquer l'exemple d'une mannequin, la mannequin Liam Nicholas Williams, qui a fait ce que beaucoup de mannequins ont l'habitude de faire après leur shooting photo, c'est-à-dire essayer de poster des vidéos, des photos qui essayent d'éclairer un peu les coulisses de ce photoshooting qui vient de se dérouler. Sauf que dans le cas de cette mannequin-là, elle a posté des photos où elle est poitrine cachée. On voit ses épaules, on voit une partie du haut de son corps. Mais à chaque fois que ces photos ont été postées, ces photos ont été signalées. Et lorsqu'elle a tenté de comprendre le problème lié à ces photographies-là, il lui a été répondu par l'application que les photos étaient considérées comme comportant un contenu problématique du fait que l'écrasement de la poitrine et du fait que l'écrasement de sa poitrine opulente était perçu, était interprété par l'algorithme comme un contenu pornographique. Et on revient ici au problème qu'on a déjà plus ou moins évoqué, c'est-à-dire cette forme de sexualisation historique des corps racisés comme des corps vulgaires, comme des corps appelant à des formes de représentation de la pornographie. Et on voit bien ici à quel point la question de l'algorithme et la question de la censure se réalisent selon des principes, selon des mécanismes assez obscurs, puisqu'encore une fois, on a du mal à comprendre comment est-ce qu'une photo comme ça peut être interprétée d'un point de vue strictement mathématique comme relevant d'une image intolérable et à invisibiliser au sein de l'espace public. Donc on voit bien ici à quel point il y a des formes de projection et de redoublement des censures à partir des propriétés sociales des individus. Et ce qui est susceptible de se produire dans un espace public, une femme avec une poitrine opulente qui porterait un simple débardeur dans la rue, comme c'est déjà produit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, par rapport à cette jeune fille qui avait été retrouvée aux portes du musée d'Orsay. Virtuellement, on retrouve des pratiques similaires, c'est-à-dire des formes d'injonction au voilement, ou en tout cas à la non-visibilité.
Oui, c'est vrai que c'est à la fois voilement et dévoilement, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'injonctions paradoxales. Après, les exemples sont vraiment innombrables, mais on peut aussi citer une prof de yoga racisée qui avait voulu juste faire la promo de ses contenus. Et en fait, elle n'avait pas pu diffuser son post parce qu'elle avait reçu un message disant que ses photos étaient obscènes, alors que c'était juste une posture de yoga. Donc effectivement, les délires interprétatifs sont assez nombreux. Et je signale aussi une tribune qui était publiée dans le Guardian en Angleterre, dans laquelle l'autrice noire Chanté Joseph a dénoncé justement ça, en fait, que les corps des communautés marginalisées sont en fait davantage victimes d'invisibilisation ou de shadow ban, puisque c'est comme ça que ça s'appelle en anglais sur l'application, effectivement comme si ces corps-là étaient implicitement sexualisés par nature. Donc là, on voit bien qu'on a toute l'histoire et tout l'imaginaire colonial qui est encore très présent, je trouve. Je ne sais pas, Adeline, est-ce que toi, ça te parle tout
ouais,
ça ?
Complètement, parce que justement, en fait, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'exemples qui sont arrivés, et ne serait-ce que juste dans les personnes que je suis de façon assez régulière. Il y en a un qui me vient en tête, et c'est les deux filles du podcast Entre nos lèvres qui en fait postent des images de corps pour montrer en fait des corps un peu différents de femmes, et qui en fait se sont retrouvées à avoir ces photos-là qui étaient sans cesse retirées de leur compte. Et tout en comparant, en fait, elles ont vraiment fait toute une grosse story, et puis sur plusieurs jours, pour dire que ben en fait il y a un gros problème entre là ce qu'elles font, c'est-à-dire montrer des corps pour pouvoir éduquer sur la sexualité, mais d'une façon en fait qui est vraiment purement éducative, et en fait les corps qui sont montrés sur le compte de, je sais pas si vous connaissez Dan Bilzerian ou quelque chose comme ça, enfin bref, un mec qui est un peu le symbole de la masculinité hyper musclée avec des armes dans tous les coins sur des yachts, etc., et en fait où il montre sans arrêt des nanas à poil, mais littéralement à poil, dans des positions qui sont très soumises et suggestives. Et en fait, lui, pour le coup, toutes ces photos-là sont encore là. Elles sont là depuis des années. Et c'est là, pour le coup, c'est vraiment de la sexualité gratuite. Et en plus, enfin voilà, c'est des corps de femmes qui sont quand même très, au final, dans quelque chose qui tombe sous le coup des règles, normalement, de Instagram. Et aussi, ça, j'avais suivi notamment, c'est un mec que je suis, qui est un homme noir, gros et gay, qui, lui, aime poster, en fait, pour donner de la visibilité aux hommes qui sont gros. Et pouvoir montrer qu'ils peuvent être beaux, qu'ils peuvent être vraiment acceptés et puis avoir les mêmes positions que n'importe quelle personne qui se sent belle et qui est bien posée. Et ce mec-là,
c'est
David Van Katapen. Et donc lui, c'est pareil, il a toutes les semaines, il met en avant en fait un homme gros qui pose, c'est un selfie souvent où le mec est assez, très fier de lui, très content de lui, se sent bien, etc. Et ça tombe sous le coup de la censure. Alors que, en fait, un mec qui va faire exactement la même pose et qui, lui, n'est pas gros, c'est pareil, ça reste, en fait. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, tu te retrouves sur ce truc où les corps, de toute façon, qui sortent des normes, c'est clair que, il y a beaucoup, beaucoup moins de chances que ça reste. Ça, c'est évident. Mais autant, du coup, sur effectivement, cette représentation-là des corps gros, des corps noirs, des corps de ce genre de couleur, etc., que également, en fait, des actes LGBT, comme je dis, par exemple, des actes d'amour, d'un baiser, par exemple. Romain Costa, un Instagrammeur quand même très connu, lui, la première fois qu'il a posté une photo en embrassant, donc c'est un baiser, en embrassant son mec, non seulement il a perdu énormément de monde, ça c'est très individuel, mais par contre, il se retrouve souvent, soit shadowbanné, soit avec en fait des images qui sont retirées de son feed, par exemple.
Pauline, comment tu perçois tout ça ?
En parlant de double standard, justement, je rebondis. Donc, c'est vrai que d'un côté, les corps gros, les corps racisés vont potentiellement être sexualisés par l'algorithme et assimilés à des contenus obscènes, ce qui est incroyable. Mais de l'autre, les corps féminins, ou en tout cas peut-être certains corps féminins, sont eux incités à se dénuder. C'est exactement ce que disait Adeline. Ouais. Par rapport à l'exemple des photos de cet homme qui posait avec des femmes nues pour qui ça posait pas de problème. Et en fait, c'est ce que deux enquêteurs, enquêtrices ont appelé la prime à la nudité féminine de l'algorithme. Donc, l'idée selon laquelle les corps de femmes dénudées, enfin en tout cas certains corps, seraient davantage montrés aux utilisateurs et utilisatrices que les corps vêtus. Et donc ça, c'est une enquête sur les vraisemblables biais sexistes de l'algorithme. C'est une enquête de Judith Duportail et Nicolas Kaiser-Brill qui a été publiée sur Mediapart et qui a démontré ça. Donc en fait, tous deux expliquent que chaque image a un score d'engagement qui détermine en fait la probabilité que les utilisateurs, utilisatrices interagissent avec ce contenu. Et en fait, c'est ce score qui va varier en fonction de plusieurs facteurs, dont le state of undress. Donc ça, c'est un des facteurs qu'on pourrait le traduire par le niveau de nudité qui visiblement agit sur ce score d'engagement. Et donc, Judith et Nicolas se posent la question de savoir si ce niveau-là de nudité servirait à booster certains contenus en fonction du degré de peau dénudée et en fonction de qui on est. Donc, ils n'ont pas de réponse ferme là-dessus et évidemment pas de la part du réseau social, mais en tout cas, ils ont analysé environ 2500 images postées et calculer leur taux d'exposition. Donc, c'est la probabilité en fait, d'une image d'être montrée aux internautes. Et selon leur conclusion, ce qui semble logique du coup, on n'est pas surpris, je veux dire, une photo de femme en sous-vêtements ou en maillot de bain est montrée 1,6 fois de plus qu'une photo d'elle habillée. Et ce taux pour un homme, lui, est de 1,3. Donc, moins élevé. Donc il y a vraiment une forme de double standard, donc à la fois avec l'invisibilisation de certains corps et puis l'interdiction par exemple de montrer les tétons féminins, on va en reparler, et en même temps cette hypothèse d'une promotion accrue des corps féminins dits conformes, donc blancs, minces, etc., en maillot de bain. On en a la preuve en fait.
Ah mais c'est vérifié, même sur mon compte, de toute façon c'est très clair. Sur toutes les photos où clairement je vais avoir un peu moins de fringues, ça décolle direct.
C'est l'expérience que tu fais.
Bien, clairement.
Quand tu dis ça décolle, c'est en termes de like ou c'est en termes de...
Les deux.
Ouais. Ah, donc là, c'est du côté des utilisateurs et utilisatrices aussi qu'il y a quelque chose qui se passe.
Oui. Bah, en fait, je pense qu'il y a autant sur l'exposition qui me semble clairement supérieure par rapport au reste. Et je vois également même que le réseau met beaucoup plus en avant lorsqu'il y a un corps dans la photo que quand il n'y en a pas. Faire une photo d'une nature morte, par exemple, je sais que ma photo s'affiche 1000 fois moins. Enfin, 1000 fois, non, j'ai pas fait les calculs, mais clairement, oui. Donc, il y a plus d'exposition quand il y a un corps. Donc, je pense qu'il y a de toute façon un algorithme quelque part. Et ensuite, quand j'ai moins de vêtements sur une photo, ça casse tous les scores. Et ça, c'est ça qui... Enfin, je m'en suis rendu compte, ouais, clairement.
Je pense qu'il y a une part à la fois des réactions des utilisateurs et utilisatrices, mais évidemment une part quand même qui semble incompressible, qui vient de l'algorithme et qui définit, voilà ce que tu dis, est-ce qu'il y a un corps, est-ce qu'il y a un pas un corps, est-ce qu'il y a un state of undress assez avancé, donc est-ce qu'il y a beaucoup de peau montrée et qu'est-ce que ça engendre. Et visiblement, l'algorithme joue là-dedans, c'est pas que l'interaction des gens qui vont voir l'image, c'est aussi le taux de couverture, ouais, le taux d'exposition, visiblement.
On est sur un marché économique aussi, à quel point, un marché symbolique aussi, mais à quel point la question de l'offre et de la demande sont complètement imbriqués, en fait, avec une anticipation de ce que les usagers d'Instagram sont susceptibles d'aimer. Et dans le même mouvement, l'idée que du coup, pour pouvoir générer du flux et créer de la visibilité, c'est plutôt vers ce type de contenu qu'il faut aller, ce qui du coup renforce le système. Enfin, on est dans une sorte de cercle complètement, j'allais dire, vertueux, mais évidemment pas vertueux au regard des discriminations que ça continue à perpétuer. Mais enfin, voilà, je trouve que par rapport à ce qu'on disait avant sur la question du marché et à quel point ça produit aussi des formes de marchandisation très fortes, d'une certaine image et d'une certaine apparence, corporéité, etc. Pauline, peut-être que tu pourrais nous parler de la question des TDS, qui est assez cruciale aussi par rapport à cette... Ouais. À cette question.
Ouais, rapidement, je voulais bien aborder cet exemple-là, donc des TDS, c'est-à-dire des travailleuses et travailleurs du sexe. Donc, cette contradiction dont on parle, c'est vrai qu'elle s'illustre en particulier avec cette question-là sur Instagram et la censure qui vise en particulier ces personnes. Je pense par exemple au compte de la travailleuse du sexe, photographe et performeuse Romy Alizé, qui avait été supprimée quand elle avait posté une photo d'elle et d'une amie avec un god. Je précise qu'elle était habillée sur la photo. Donc, ça, c'était en 2018. Mais en vérité, ça concerne beaucoup de travailleuses du sexe. Et elle avait écrit une tribune dans Libé où elle disait qu'en fait, Instagram imposait ses conditions d'utilisation qui ont moins à voir avec ce que la loi sanctionne qu'avec en fait des décisions arbitraires et réactionnaires et dont on a dit qu'elles sont très opaques, ces décisions, alors qu'en fait, pullulent sur le feed mondial d'Instagram, là je la cite, des images sexistes, violentes, haineuses, doublées de commentaires homophobes, misogynes, racistes. Et elle dit, au milieu de tout ça, c'est bien moi, photographe et travailleuse du sexe féministe, qu'ils ont condamné, et ce, sans préavis. Et elle demande pourquoi sanctionner des contenus désirés et soutenus par une communauté active, si ce n'est pour signifier que ces contenus sont déviants et que nous, artistes et utilisatrices, sommes déviants et déviantes. Et je voulais juste citer aussi dans le livre de Bertoul Borebec, je ne sais pas si vous voyez, donc qui est aussi une travailleuse du sexe afroféministe. En fait, elle écrit que les comptes des femmes ouvertement travailleuses du sexe sont désactivés et supprimés sans que leur contenu ne transgresse les règles d'utilisation. Il suffit d'écrire dans sa bio qu'on est performeuse pornographique ou camgirl pour être littéralement persécutée par le réseau social qui supprime ses comptes à tour de bras et sans aucun motif. J'ai vu mes comptes Instagram supprimés sans préavis, sans qu'aucune de mes photos postées ne soit mise en cause. Ça, c'était un deuxième témoignage.
Ouais, c'est quand même étonnant de voir que c'est souvent les femmes elles-mêmes en fait qui sont blâmées beaucoup plus que les biais de l'algorithme, qui sont quand même plus discrets. Et je pense qu'on peut aussi parler du fait qu'il y a pas mal d'accusations envers les Instagrammeuses, comme à l'époque il y a quelques années, contre les blogueuses mode, qui étaient taxées de frivolité, d'antiféminisme, d'être responsables vraiment à elles seules d'accentuer des stéréotypes sexistes. Enfin, il faut pas oublier d'avoir une réflexion sur le fait que pour certaines c'est un outil de travail en fait. Donc certes, on a le droit de pas aimer le féminisme glamour qui est validé par le capitalisme patriarcal, mais en fait certaines de ces personnes tirent des revenus de ces clichés là. Alors après on peut se demander est-ce qu'elles sont responsables ou est-ce que ces structures préexistent. Et d'ailleurs, même celles qui bénéficient d'Instagram pour gagner leur vie, on voit quand même rapidement les limites. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a eu un coup de gueule de la mannequin Emily Ratajkowski dans New York Magazine sur le fait d'être vraiment dépossédée de son image sur Instagram. Bon, elle parle aussi d'agression sexuelle. Enfin, voilà, le texte est très long, mais je vous invite à le lire.
So I was with my friend in the East Village walking my dog, and I got this text from my mom's ex-husband, who's a lawyer and gets Google alerts from me. And he was like, so you're being sued. And I was like, what? For what? You know? And I found out that it was for a post I had done on my Instagram stories of a picture of me that a paparazzi took outside of my apartment, where I'm holding flowers in front of my face, trying to shield my face from the paparazzi.
En fait, je trouve que ça rejoint toujours un peu le même discours. C'est bon, bah c'est toujours à cause des femmes, quoi. Donc là, le problème de l'identification des petites filles, c'est les femmes, c'est les blogueuses, c'est les instagrammeuses, etc. En fait, il y a différentes catégories aussi d'instagrammeuses, de blogueuses, machin. Celles qui vraiment correspondent pile poil à l'image qui vraiment est l'image qu'on condamne énormément, enfin qu'on condamne, mais bon bref, qui est assez violente effectivement quand on la regarde, sont assez rares. Il y a quand même beaucoup plus en fait de nanas qui en fait ont un univers particulier ou qui elles-mêmes vont soit transformer leur corps, soit quelque chose comme ça, mais ne correspondent même pas en fait réellement à ça. Ensuite, les filles qui vivent vraiment de Instagram, qui gagnent vraiment leur vie sur Instagram ou TikTok, en fait, c'est extrêmement rare également. Souvent, en fait, elles ont un travail à côté, elles ont un truc à côté, elles ont une entreprise, elles ont quelque chose. Instagram, c'est vraiment une vitrine. Après, la vitrine, on en fait effectivement ce qu'on souhaite. Et puis, si vraiment, voilà, on va utiliser cet algorithme, on va faire en sorte de plaire à tout le monde. Donc, en fait, on va correspondre à un modèle, voilà, qui pose problème, clairement, hein, moi qui me pose également problème. Mais souvent, en fait, on prend vraiment ce biais-là. Donc, en prenant, par exemple, voilà, on prend Emily Ratajkowski, on prend des Nabila, enfin, bref, vraiment des personnes. Elles sont 10-15, mais on les voit énormément parce qu'elles sont beaucoup partagées, mais il n'y a pas qu'elles en fait. Et pour moi, ça, résumer ça à ça, c'est un peu compliqué parce que en fait, on reste quand même encore aujourd'hui à cette image, à ces différentes personnes qui travaillent et qui ne travaillent pas aussi, mais qui sont très très différentes les unes des autres et qui vont partager en fait des mondes aussi qui sont très différents les uns des autres et qui vont soit être engagées, souvent ça l'est, parfois ça ne l'est pas du tout et là on tombe plutôt dans le côté très très commercial et il y en a, mais même chez ces nanas ou ces mecs qui sont très très commerciaux, on n'est pas toujours dans une seule image. C'est ça que souvent, voilà, je trouve qu'il y a cette caricature-là dont il faut se débarrasser parce que ça, c'est ce qui s'affiche effectivement dans un feed, c'est dans l'explorer, quoi. Mais dans ce qu'on suit réellement, je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment des gens qui ne suivent que ça.
Et bon, après tout, c'est tout ce qu'on vient de dire qui est quand même relativement négatif. Je veux juste faire un peu ma naïve de service et dire que ce réseau social peut aussi avoir une force, un peu comme un fanzine en fait, un petit espace en dehors des gros médias, en dehors de la télévision, où on peut raconter d'autres histoires que les histoires mainstream, voire même remettre les pendules à l'heure, puisque les personnes parlent pour elles-mêmes, par elles-mêmes, pour des personnes qui leur ressemblent, ce qui n'arrive absolument jamais, sauf, je sais pas, éventuellement en famille. Ça peut concerner déjà les luttes féministes. Je tiens, par exemple, à rappeler les collages féministes. Les collages féministes, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup existé via Instagram. Enfin, pour une fois, on avait dans la rue des collages qui parlaient de nous, qui parlaient de nos mortes, et qui ont été utilisés par Instagram. Là, pour le coup, aussi, Instagram a permis de remettre un peu les pendules à l'heure quand... Il y a eu la grosse lutte sur les TERF, enfin le fait que les médias aient dit que les collèges féministes étaient des TERF, ce qui était archi faux. Ah oui, TERF, c'est les féministes qui sont transphobes, donc qui considèrent que par exemple les femmes trans n'ont pas leur place dans la lutte féministe ou dans la reconnaissance des féminicides. Donc il s'agit d'une infime minorité du mouvement des colleuses féministes. Et les médias ont dit que c'était en gros un peu la racine du mouvement. Et Instagram a permis de remettre les pendules à l'heure. Beaucoup de collages justement disant que les femmes trans sont assassinées parce qu'elles sont des femmes, que les femmes trans sont des mères qui n'arrivent pas à avoir des reconnaissances de maternité, ce genre de choses. Ça a un peu remis les pendules à l'heure via Instagram. Les autoreprésentations, même si elles sont censurées, le simple fait qu'elles existent déjà, c'est une force phénoménale, que ce soit pour les personnes racisées, que ce soit pour les personnes en situation de handicap aussi, parce que les corps handicapés, on les voit nulle part. Enfin, nulle part. On les voit vraiment, là, pour le coup, nulle part. Et là, on les voit sur Instagram. Et aussi, bien sûr, les corps et les vies LGBTQ. Donc, beaucoup d'entre nous ont pu suivre, par exemple, des coming out. C'est des belles histoires, les coming out. Et puis, en France, on n'a pas cette culture-là. Donc, c'est important de les valoriser. Donc, il y a eu celui d'Angèle. Elle a choisi Instagram pour faire son coming out. Peut-être que pour certaines personnes, il était invisible puisqu'il était discret, un peu chouette. On a aussi pu suivre la transition d'Océan qui a choisi Instagram pour parler. Et d'ailleurs, il a fait un post super. Donc, Océan, qui est un comédien, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Il a pu parler, par exemple, du fait que ses tétons sont devenus autorisés sur Instagram et parler du privilège d'être un homme. Et ça, c'était un post qui était super chouette à lire et super chouette aussi parce qu'il a eu beaucoup de likes. Et aussi, on a pu suivre les parcours familiaux de Papa Papou, Demande à tes mères, donc des familles qui expliquent ce que c'est d'adopter son propre enfant, ce que c'est les courses en Belgique pour faire son enfant ou à travers l'Atlantique pour récupérer son enfant né par GPA. Voilà des choses qui, encore une fois, commencent à se retrouver dans les journaux et à la télévision, mais là, pour le coup, Instagram a été un peu là avant. Et moi, c'est vrai que dans ma construction militante, c'est ce qui a était aussi importante, c'était de remettre l'histoire sur des bons rails. Il y a leur story, évidemment, rappeler que l'histoire est racontée du point de vue des hommes pour les hommes. Il y a eu beaucoup de contes qui rappellent que les femmes font partie de l'histoire et l'ont faite aussi. Par exemple, Her Story est un conte qui parle de ça. Il y a aussi LGBT History, Lesbian Her Story, donc plusieurs contes où on voit des images de vieilles lesbiennes des années 30 qui se cachaient ou qui se cachaient pas. Donc ça fait trop plaisir. Et aussi, quelque chose qui est important pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, il y a un compte qui s'appelle The AIDS Memorial, qui montre les photos de celles et ceux qui sont morts du sida, qui racontent leur vie, qu'est-ce que c'était dans les années 90 en France, à San Francisco, et de voir tout son monde autour s'écrouler et s'effondrer dans une pandémie pas du tout reconnue, quelque chose qui peut nous parler aujourd'hui. Donc Instagram peut aussi être cet endroit-là émouvant, où on se prend dans les bras et où on se dit qu'il y a peut-être des petites choses qui peuvent changer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adeline, tu hoches la tête.
Oui, parce que justement, c'est vrai que je trouve que tous ces comptes-là qui sortent justement sur Instagram sont de merveilleuses introductions justement à tous ces sujets qui ne touchent pas forcément et qui donnent envie de creuser plus loin et qui, voilà, au fur et à mesure, c'est exactement ça, c'est les fanzines, en fait, se sont retrouvées sur Instagram. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et justement, je trouve que là, c'est comme ça un peu que je vois les choses, mais comme j'ai l'impression que pas mal de mes collègues voient aussi ça, c'est que nous, on a une plateforme énorme avec beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont là pour les conseils beauté, machin, etc. Mais on a aussi en fait une plateforme de relais pour tous ces comptes-là. Et j'ai remarqué que on était quand même pas mal à le faire. Et du coup, ça, c'est pour ça que là, je me dis, mais en fait, c'est vraiment génial parce que, et je suis très positive, hein, parce que je trouve que vraiment, de plus en plus d'influenceuses s'engagent et donnent des liens, en tout cas pour des renseignements comme ça, et justement avec des comptes, mais qui sont réalisés par des personnes qui sont totalement passionnées. Après, ce que j'aimerais bien, ce qui serait beau un jour, c'est que ces personnes-là qui font quand même un travail de cinglé puissent un jour avoir au moins une rémunération pour ça. Ou une reconnaissance, en tout cas.
La thune, hein, franchement.
On peut essayer de déplacer un tout petit peu le curseur, mais vous en avez déjà un peu parlé, et puis essayer de voir dans quelle mesure les images qui sont produites par Instagram et ces formes de narration subversive qui s'y développent aussi agissent ou ont des effets sur les utilisateurs d'Instagram. Puisque là, on a beaucoup parlé de ceux qui font Instagram, de ceux qui produisent du contenu, mais on sait très bien que de l'autre côté de l'écran, il y a d'autres choses qui sont susceptibles de se passer et que cette confrontation perpétuelle soit à des injonctions très fortes ou au contraire à des formes de possibilités de recréation de soi, de reconstitution de soi à travers d'autres normes peuvent plus ou moins poser la question de la santé, la question de la santé mentale aussi, même si c'est, voilà, c'est une question sur laquelle on pourrait beaucoup, beaucoup échanger. La question aussi de la légitimation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se sent tout d'un coup appartenant à une communauté et comment le désir d'appartenance et parfois le désir de conformité peut se trouver être complètement galvanisé et renforcé par cette plateforme. Donc voilà, je voulais un peu vous poser cette question-là, des effets potentiels de cette application.
Moi, je rebondis sur ce que tu dis, du coup, juste pour donner peut-être un chiffre ou en tout cas parler des études qui ont pu tisser les liens justement entre Instagram et la santé mentale. Je vais un peu enfoncer des portes ouvertes parce que je pense que tout le monde en a un peu entendu parler. Donc, il y a des travaux en fait qui ont fait des liens entre, par exemple, Instagram et l'anxiété ou la perception et l'estime de soi, la question des complexes, l'image corporelle, etc. Et donc, pour ne citer qu'une étude, il y a celle de la Royal Society for Public Health qui est née auprès de 1500 jeunes de 14 à 24 ans au Royaume-Uni. Et donc là, c'est déclaratif. Mais donc, les personnes interrogées la jugeaient en fait la plus négativement de toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux par rapport à ces sujets-là. Donc, il y a ce constat-là. Mais je pense qu'il y a aussi le sujet de... On parlait de l'algorithme, justement, de la prime à la nudité, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là sur cet algorithme qui, je pense, est aussi capable de mettre le doigt sur ce qui peut potentiellement nous obséder, nous complexer et les objets de fascination très individuels pour ne nous montrer plus que ça. Il y a ça aussi qui joue et qui n'est pas forcément... documenté, mais qui joue certainement aussi sur la santé mentale.
Ouais, moi, c'est vrai que je me méfie toujours un peu de blâmer un média ou une forme et de le moraliser. Enfin, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on en fait et qu'on a aussi une distance critique quand même par rapport à ces outils. Mais effectivement, il semblerait que, pour le coup, Instagram ait quand même une influence plutôt négative, en tout cas sur l'image corporelle, en particulier des adolescentes. Il y a eu pas mal de littérature à ce sujet, sur le fait que les réseaux sociaux intensifient en fait une forme de surveillance corporelle, notamment à cause d'une exposition à des images auxquelles on se compare. Donc encore une fois, il faut se méfier, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle appli que tous les comportements, que toutes les pratiques sont nouvelles, parce qu'en fait, on se compare aussi dans la vie, hein, mais simplement là, c'est amplifié.
Bah, j'ai le sentiment, en tout cas, que c'est quelque chose qui est sans doute accentué par la plateforme et par l'utilisation même de la plateforme, mais c'est un peu une question qui est quand même assez enfin, vieille comme le monde, où en fait, on avait la même chose avec la question de la télévision, les modèles dans les années 90 qui étaient extrêmement maigres, et donc on se comparait énormément à ça, et j'ai l'impression qu'en fait on continue de toute façon à perpétuer toujours ces injonctions-là, mais c'est juste qu'on change, complètement en fait de façon d'utiliser, quoi. Donc effectivement, le problème, c'est que clairement, pour moi, c'est que ça dure toute la journée. On prend son téléphone, on s'expose à ça. Mmh. Et encore une fois, c'est vrai que c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on peut avoir le choix en fait de ne pas s'y exposer. On peut choisir de défollower certaines personnes. Et ça, c'est, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai fait parce que je me suis rendu compte que ça avait une influence pas forcément très chouette sur moi. C'est-à-dire que vraiment, je me regardais, quand je faisais mes photos, etc., je me comparais à des photos qui auraient pu être beaucoup plus dans les normes, ou en tout cas beaucoup plus, enfin corporellement, je me disais, ah non, attends, il faut pas que je mange, ou j'étais vraiment plus dans ce truc-là pour me dire qu'il fallait absolument que je rentre dans les codes d'Instagram. Mais j'aurais pu me dire la même chose, et je me disais la même chose quand j'avais un blog. Et puis, je me disais la même chose quand je voulais aller au lycée, quand je voulais aller au collège, etc. Donc au final, je pense que ce qu'il faudrait absolument faire, ce serait en fait faire de la prévention et d'encourager en fait les petites filles, les petits garçons et tous d'apprendre à avoir le choix au niveau de son feed, quoi, de son propre feed.
Ce que tu dis, Adeline, sur le fait qu'Instagram, du fait de sa présence dans nos téléphones de manière quasiment continue, c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, ça transforme quand même le rapport à la norme, puisque du coup, cette norme, elle est quasiment une forme de rappel symbolique permanent. Là où auparavant, par rapport aux magazines, etc., tout d'un coup, on pouvait tomber sur le corps hyper standardisé d'une mannequin parce qu'on avait un rendez-vous chez le dentiste et que du coup, voilà, c'est dans ce moment-là qu'on tombe dessus. Il y a quand même une sorte de rapport addictif à Instagram qui se répercute aussi sur la question du rapport à la norme, dont il est assez difficile de se détacher si, comme vous l'avez dit avant, il n'y a pas un travail critique à l'extérieur d'Instagram qui est produit, que ce soit par rapport à la question du travail militant ou par rapport au fait, tout d'un coup, de comparer Instagram et les discours qui sont produits à des discours féministes, à des discours historiques, à des discours de remise en cause de cette normalité-là et de cette normativité en particulier.
Ouais, moi, ce que je trouve aussi chouette, c'est que un truc qui a changé avec l'utilisation d'Instagram, c'est le fait que les personnes se sentent triggerées par certains sujets. Ils vont sentir, via une photo ou via un hashtag, que cette question peut les plonger dans une peur de se comparer, dans un souvenir traumatique. Et en fait, ce qui est un peu chouette aussi, bon, j'essaie d'être positive, même si évidemment c'est dur en ce moment, mais c'est que ce réseau, les utilisateurs et utilisatrices ont trouvé un moyen d'en faire un peu une safe place en utilisant le trigger warning. Aujourd'hui, le trigger warning est quand même assez utilisé. Je me rappelle qu'il y a quelques années, c'était réservé à certaines personnes très militantes. J'ai mis du temps, hein. J'ai même essayé de googler trigger warning pour savoir ce que ça voulait dire, enfin le TW parce que je ne comprenais pas, il y a quelques années. Et aujourd'hui, il est quand même devenu assez massivement utilisé. C'est une pratique qui montre que quand même, Instagram peut être un endroit où on peut parler de violence, de trauma, où on peut aussi entendre le fait qu'une personne peut avoir ressentir de la violence, avoir juste quelques gouttes de sang par exemple, ou voir quelqu'un vomir. Des choses qui, dans le reste de la société, sont considérées comme de l'ultra-sensiblerie ou je ne sais quoi. Le réseau peut provoquer des grosses angoisses, mais peut aussi prendre soin de ceux et celles qui en ressentent. C'est encore une fois Anne-Laure la Naïve qui, qui donne son opinion.
Merci beaucoup Anne-Laure. Je vous propose qu'on passe à la question des expériences plus individuelles d'Instagram. Adeline, peut-être, est-ce que tu peux nous dire, c'est quelque chose qu'on ignore encore un peu, sur simplement ta venue à Instagram. Et voilà, une forme de replonger dans, pas forcément tes débuts, mais en tout cas dans quelque chose de l'histoire qui te lie à cette application.
En fait, moi je suis donc blogueuse mode, enfin, en tout cas j'ai commencé assez tôt, donc en 2008. Et donc c'était vraiment, en fait, j'avais pour habitude de toute façon de partager beaucoup de photos, autant sur mes blogs que sur, enfin voilà, c'était très habituel. Et en fait, Instagram, je ne m'y suis pas mise tout de suite, parce que pour une raison très très simple, c'est que c'était moche à l'époque, c'était vraiment moche. On postait que des photos en fait avec notre téléphone, on ne pouvait pas en uploader à cette époque-là, et on mettait forcément des sortes de filtres, mais c'était moche quoi, c'était vraiment, ça me plaisait pas du tout. Et du coup, je me suis mise quand même assez tardivement, et c'est vrai que j'ai pas compris vraiment, enfin j'ai pas trop compris au départ vraiment l'intérêt du truc, et comme beaucoup en fait de blogueuses, parce que nous on avait déjà notre plateforme, on pouvait poster plusieurs photos, on pouvait avoir des textes aussi, et Instagram c'était juste une photo, et puis alors avec une toute petite description, on pouvait pas voilà, on pouvait pas vraiment aller plus loin quoi. Et après en fait c'est au fur et à mesure que tout bête en fait, les marques avec qui je travaillais m'ont demandé de poster également sur Instagram, et puis en fait au fur et à mesure je commençais à avoir des gens qui rejoignaient aussi Instagram, et j'ai fini par délaisser mon blog au final pour rester que sur Instagram. Donc, je suis à la merci de ce réseau maintenant quoi. Mais du coup c'est vrai que je l'ai longtemps utilisé comme j'utilisais mon blog, c'est-à-dire autant pour un côté assez lifestyle, mode, etc. Puis tout en continuant de travailler. Et il y a de ça peut-être 3 ans, je me suis beaucoup plus mise, en tout cas, à parler de sujets sociétaux, mais des choses qui me touchaient, en tout cas, dès le départ. Et parce que j'avais remarqué qu'en fait, l'échange était beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile aussi sur la plateforme. Et c'est ce qui m'a conduit, en fait, au fur et à mesure, à prendre la parole et puis à faire des photos ou des choses qui sont un peu plus engagées. Et puis, ensuite, sur l'utilisation, il y a eu cette question-là. Bah justement du confinement, je sais pas si on en parlera plus tard, mais où en fait pour la première fois je me suis posé la question, je me dis mais qu'est-ce que je fous sur Instagram et à quoi je sers, qu'est-ce que je raconte quoi, et est-ce que vraiment j'ai envie de poster cette photo de mes produits de beauté qui m'ont été envoyés là, enfin est-ce que ça a vraiment de l'intérêt alors qu'on est tous confinés dans des apparts, enfin quel est l'intérêt. Et donc c'est comme ça en fait que je me suis dit bon ben je vais partir à juste faire une série de photos juste parce que j'en ai envie et sans penser à la question de est-ce que je vais gagner des sous ou quoi, enfin bref. Et sachant qu'en plus aussi ça, j'ai un travail à côté. Et là, j'étais en chômage partiel, donc j'avais que ça à faire en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu mon utilisation aujourd'hui, c'est que je cherche beaucoup plus en fait à faire des choses qui ont du sens, à raconter des histoires et en plus de ça, à balancer du beau quoi. Et du beau qui n'est pas vain aussi. Voilà.
Et toi, Pauline ?
Moi, j'ai mis du temps à me mettre un Instagram. Je me suis inscrite pour essayer. Mais en fait, moi, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, je suis très vite tombée dans cette fascination étrange et qui me faisait du mal aussi, je pense, de la fonction recherche. Donc, celle où Instagram comprend vite ce qui nous fascine et nous rebalance les mêmes photos. Et en fait, donc j'ai été fascinée par ce qu'Instagram avait sélectionné pour moi, c'est-à-dire de la danse, des bébés, des couples hétérosexuels souriants, des appartements parfaits, des voyages en Italie. Donc cette espèce de miroir tendu vers moi n'était pas très fun, pas très subversif. Donc je me suis dit waouh, c'est aussi inintéressant que ça mes obsessions. Je me suis plongée dans ce miroir que ça me renvoyait de moi en tant que meuf hétéro en manque de voyage qui pense à la maternité, ce qui n'est pas forcément loin de la réalité, mais c'est toujours bizarre. Donc voilà, et j'ai développé aussi les petites techniques de torture qu'on connaît bien, ce qui est de stalker les comptes qui nous insécurisent le plus, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec Adeline, si on est suffisamment critique et si on a les outils pour... on peut aussi faire le choix de couper, mais c'est difficile parce que c'est très intriqué avec le quotidien, avec l'addiction dont parlait Kaoutar, donc c'est compliqué. Et je voulais citer justement le podcast de ma consoeur, encore une fois, Judith Duportail, qui est Miss Paddle chez Pavillon Sonore, qui raconte en fait au début son rapport à un compte Instagram d'une femme qui l'obsède et le lien entre cette obsession et la violence patriarcale.
C'est l'histoire d'un like sur Instagram. D'un like et de tout ce que ça peut vouloir dire.
C'est vraiment passionnant à écouter. Et voilà. Et sinon, j'avais juste une anecdote. Donc, pour promouvoir mon travail, je m'en sers aujourd'hui aussi d'Instagram ou pour promouvoir le travail de mes consoeurs. Et le truc qui me rend ouf, et c'est ce que disait aussi Adeline Rapon tout à l'heure, c'est que quand je poste une story juste d'un article ou d'un podcast, j'ai presque pas d'interaction. Après, j'ai très peu de followers. Et par contre, si je me mets en scène, par exemple, dans une story où je me mets la bouche en cœur ou je sais pas si je me mets dessus en jouant avec mes cheveux et qu'après je mets mon travail ou le travail d'autres journalistes dans la même story, là il y a beaucoup d'interactions comme si c'était boosté. Et donc je me dis mais que je devrais limite poser à poil en fait avec les articles que je publie et on en vient en fait à avoir ce genre de réflexion, chose à laquelle j'aurais jamais pensé en tant que journaliste il y a 10 ans.
Et toi là?
Moi, c'est vrai qu'au début, je me suis inscrite un peu comme je m'étais inscrite sur Facebook. D'ailleurs, je vous conseille, c'est un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps, de remonter dans les premiers posts Facebook. C'est une horreur. Enfin, on se déteste. Mais donc, du coup, j'ai fait ça en me disant « Ah, c'est chouette, on peut poster des photos de vacances. » Je ne voyais pas trop le principe de l'interaction. Je ne voyais pas, évidemment pas le principe de la militance à ce moment-là. Et c'est 2013 qui a tout changé. 2013, où ils avaient envahi les rues avec des slogans comme quoi on était des monstres, comme quoi on n'avait pas le droit d'élever des enfants. Et là, d'un coup, je me suis dit que ce réseau social pouvait aussi être une vitrine à raconter des vies out. Et donc j'ai un peu changé ma façon de parler de moi. J'ai ouvert à tous et toutes il y a 2-3 ans, je crois à peu près au moment où j'ai commencé à travailler pour Quoi de Meuf, est-ce que c'est sans doute en lien, où je me suis dit après tout, oui, il y a une mise en danger aujourd'hui, oui c'est dangereux, on l'a vu avec malheureusement l'attentat qui s'est produit il y a quelques jours, on voit que parler de certains sujets, que de se mettre en avant sur certains sujets en France aujourd'hui peut être dangereux, que un grand nombre de mes confrères, consoeurs ou même de personnes qui sont LGBT aujourd'hui, quand ils se promènent dans la rue, ils peuvent se faire assassiner, ils peuvent se faire agresser, donc oui bien sûr, il ne faut pas le faire à la légère, mais je me suis dit, il faut utiliser ce réseau-là pour raconter une France LGBTQ, pour raconter une France rurale aussi, puisque Instagram aussi, il faut bien le rappeler, est massivement utilisé par des personnes qui vivent en ville, des personnes qui vivent à Paris. Et donc, c'est important de raconter aussi cette France-là qui est la mienne, là où je suis née. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut conjuguer toutes ces identités-là sur ce réseau social. Donc, voilà. Et sinon, comme Pauline, évidemment, j'utilise le réseau pour parler de mon travail. À un moment, je me suis dit, est-ce que c'est un peu narcissique ? Est-ce que c'est... c'est compliqué de parler de son travail, d'en être fière et de le poster. Et après, je me suis dit, après tout, tous les gars le font. Tout le monde est fier de son travail. Et nous, on est les seuls à se dire, est-ce que je ne suis pas... Je ne suis pas en train d'overstepper sur mes consoeurs. Est-ce que je ne devrais pas plutôt poster des trucs de mes consoeurs au lieu de parler de mon travail? Et en fait, non, merde. J'ai le droit d'être fière de mon travail. Donc, j'ai le droit de poster des trucs sur mon travail, ce qui ne m'empêche pas de parler de mes consoeurs. Et toi, Clémentine?
Ouais, alors moi, je fais mon coming out. Je pense que j'ai vraiment un problème de dépendance à Instagram. Comme beaucoup de gens, hein, c'est la faute un peu au scroll infini, quoi. Et en plus, du coup, bah, je rêve d'en partir. Mais je pense que, en fait, professionnellement, c'est très difficile de ne pas être sur Instagram. Donc, peut-être quand je n'aurai plus de travail, je pourrai partir d'Instagram, je ne sais pas. Après, bah, très rapidement, moi aussi, je me sens un peu aliénée par les normes esthétiques qui sont devenues un peu des standards à cause d'Instagram. Donc j'essaie un peu de résister à ça. Je trouve aussi que amicalement, en fait, ça change pas mal de choses dans nos rapports avec nos proches. Surtout parfois par rapport à des proches qui ont plus d'argent que soi. Voir les photos de vacances d'amis qui ont plein de thunes, en fait, parfois, bah, ça fait du mal, quoi. Donc c'est pas toujours très, très facile à négocier. Et encore une fois, professionnellement, je trouve que c'est un bon moyen de mettre en avant son travail, mais c'est aussi un moyen de surveillance en fait entre collègues ou avec sa hiérarchie. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant, et je pense que on le sait, mais il faut jamais oublier que le temps qu'on passe dessus, c'est de l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est gratuit en fait, mais en fait on donne notre temps à Instagram, on donne des sous à des pubs et à des marques. Donc voilà, faut pas oublier que voilà, c'est le capitalisme, hein. Rien n'est gratuit, sachez-le. Donc voilà. Et toi, Kemptar?
Je pense que mon addiction à Twitter me sauve un peu de l'addiction à Instagram. Mais je me retrouve un peu dans ce que disait Pauline tout à l'heure, où tout d'un coup, il y a une forme de cristallisation de ma vie et de mes obsessions que je redécouvre sur Instagram, ce qui n'est pas forcément très, très agréable, parce que ça ne fait que les creuser et les approfondir. Mais je trouve que ça... En tout cas, Instagram m'a appris un peu ce que disait aussi Anne-Laure, c'est-à-dire d'essayer d'apprendre tout d'un coup à parler de son travail d'une autre manière, de manière plus visuelle. Ce qui veut dire aussi, par exemple, qu'au sortir de conférences ou au sortir d'événements publics, il faut avoir le réflexe de prendre en photo la salle, il faut avoir le réflexe de... Je trouve que ça pousse à entrer dans une forme de narration perpétuelle de soi, où il faut tout raconter, du moment où on sort de chez soi, au moment où on arrive sur le lieu de l'événement. Enfin, je trouve que ça, c'est une charge de travail en plus. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Je sais que souvent, je me dis, ah ben tiens, j'ai pas fait la photo, ah ben tiens, je l'ai pas annoncé aussi sur Instagram, etc. Mais parce que c'est aussi une forme de reconfrontation à l'image, à mon image, à la tête que j'ai ce jour-là, à la manière dont je suis coiffée ce jour-là, qui m'attire pas forcément. Et pourtant, je sais que professionnellement, c'est important de faire croire que tout est au top, que tout va bien, que tout est extraordinaire, que voilà, que c'est important d'être dans cette narration auto-satisfaite. Et je suis très admirative des gens qui réussissent à le faire, parce que je pense que ça démontre aussi des compétences de savoir-être qui sont extrêmement valorisées aujourd'hui. Donc Twitter me paraît beaucoup plus sain pour moi, mais voilà, je mets un peu en concurrence les deux. Évidemment, c'est deux espaces très différents. Mais disons qu'Instagram, je le traite un peu de cette manière-là. J'y suis un peu... Parfois, j'y suis un peu indifférente, et il faudrait que je sois peut-être un peu plus centrée sur Instagram, au contraire.
Vous allez vous retrouver, enfin, ou en tout cas, de ce que je comprends, c'est que pour promouvoir votre travail de journaliste, vous êtes obligé de faire les influenceuses, quoi.
De faire de l'autopromo aussi, surtout quand on est pigiste. Quand on est pigiste, il faut se créer une clientèle. Et se créer une clientèle, c'est montrer quelles sont nos compétences, montrer aussi quels sont nos champs d'action. Et ça, c'est vrai que les réseaux sociaux, Twitter et Instagram en particulier, Facebook, encore une fois, je crois qu'il est sur la touche totale, reste vachement... important.
Je trouve que c'est très lié, enfin, en tout cas c'est moi, c'est ce que je ressens beaucoup dans Instagram, c'est prouve que tu existes. Voilà, moi je ressens beaucoup ça en fait. Prouve que ton existence est pleine et débordante, ça revient aussi un peu à ce que disait Clémentine auparavant par rapport à la capacité à consommer du voyage, à consommer de beaux hôtels, de bons plats, etc. Donc tout se retrouve beaucoup, et c'est évident que la question de l'influence, elle n'est pas uniquement... liée à la question du shampoing ou des choses comme ça auxquelles on peut penser très spontanément et très caricaturalement par rapport à la question des influenceurs et des influenceuses. Mais ça pousse à repenser les codes de la profession et du coup, ça recrée d'autres formes de hiérarchie entre ceux qui le font bien, qui ne le font pas, qui le font mal, qui le font de manière maladroite, qui le font de manière trop ceci, trop cela.
C'est une question de qui a l'opportunité de le faire aussi, parce que comme on a dit, c'est du travail, c'est une charge émotionnelle. C'est qu'est-ce que je montre ? Est-ce que je montre un peu de privé, pas de privé ? Est-ce que je poste tel article ? Est-ce que je mets ma... Et aussi, est-ce que moi-même, où est-ce que je me situe socialement par rapport aux normes, par rapport aux discriminations, etc. Il y a tout ça qui joue et j'ai l'impression que ça infuse la sphère professionnelle. Et c'est peut-être ce qu'on disait, c'est ça qui a vraiment changé, c'est l'espèce de permanence de ces images-là et de cette mise en scène-là à laquelle on est quand même très fortement incité avec une espèce de soft power, mais de soft power qui infuse toutes les strates de l'existence. Et c'est ça qui est potentiellement, je pense, compliqué, dangereux et qui doit être interrogé.
Le moment
pop culture.
Pop culture.
Et justement, il y a une forme de continuité aussi dans la pop culture, dans la manière dont les usages d'Instagram maintenant sont vraiment entrés dans le récit aussi de la culture. Je ne sais pas si tu as quelques exemples, Anne-Laure, par exemple.
La série Black Mirror, je ne sais pas si vous la connaissez tous et toutes, mais il y avait un super épisode sur Instagram qui montrait justement qu'on peut tomber dans une société du score, qu'on y est déjà d'ailleurs, du score personnel. Et cet épisode était vraiment très très chouette.
You want a cookie with that? On the house.
Sounds awesome.
Puisque c'était la force de la série, montrer que le futur dystopique est déjà dans notre présent. Donc je recommanderais cet épisode-là. Je recommanderais aussi, évidemment, on en a déjà parlé, dans Quoi de Meuf, de la série I May Destroy You, puisque le personnage principal avait utilisé le réseau social comme un porte-voix pour montrer justement, tu disais, Kaouta, résiste, prouve que tu existes. Bah là, c'était exactement ça, c'était ils m'ont piétiné, ils m'ont défoncé, mais je suis la plus forte. Et elle utilisait le réseau. Et elle montrait aussi qu'elle était tombée dans une spirale à regarder comment le public constatait sa rémission à force de likes, à force d'interactions, à force de petits cœurs, et comment ça s'était aussi retourné contre elle, comment le réseau social l'avait aussi remis la tête dans l'eau. Cette série est formidable.
Thank you for what you're doing.
I love you too.
Petit conseil BD, Lisa Mandel a sorti une BD récemment où elle parle, elle a fait le test d'une vie parfaite, c'est-à-dire dénuée d'addiction. Pendant un an, elle n'a pas pris d'alcool, elle n'a pas mangé de sucre, etc., etc. Le but était aussi de se guérir de son addiction aux réseaux sociaux. Et en fait, elle montre au fur et à mesure de son année qu'au contraire, elle est tombée dedans, puisque comme elle postait ses dessins sur Instagram et sur Facebook, eh bien, en fait, elle a compris en temps réel ce que c'était qu'un post qui fonctionne. Et donc, au lieu de détruire son addiction, ça l'a au contraire totalement nourrie et focalisée sur les likes et la course aux likes. Donc, super BD, une année exemplaire que vous pouvez trouver en librairie. Et toi, Clémentine ?
Ouais, il y a aussi une série Netflix dont on a parlé récemment, c'est Emily in Paris, qui est un peu un contre-modèle là-dessus, parce qu'on s'en est pas mal moqué récemment. Donc l'héroïne est américaine, elle vient à Paris et elle devient influenceuse simplement en postant des photos de croissants, de tours Eiffel et de statues et de bérets. Voilà. Donc c'est pas très réaliste, enfin, on peut même dire que c'est un peu une caricature.
I'm Emily, your new neighbor.
Enchantée.
Mais la série, elle est retweetée par Brigitte Macron sur un produit pour la lubrification vaginale. Ça, c'est mythique, ça, quand même.
Je suis d'un RT de Brigitte Macron pour accéder à la notoriété, voilà, si c'était aussi simple.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles.
De Quoi de Meuf ?
Est-ce que vous avez une recommandation culturelle ?
Moi, j'en ai une, c'est les 100 ans de la naissance de Gabrielle Wittkopf, qui est donc une autrice que vous connaissez peut-être pas, mais vous connaîtrez bientôt. C'est un peu le génie de la littérature macabre et dérangeante. Donc, les éditions Bourgois ressortent ce roman-là et je vous le conseille. C'est évidemment archi-trash, mais ça fait tellement du bien de voir une meuf aussi puissante écrire de cette façon. Donc, je vous en dis pas plus parce que c'est assez chouette à découvrir sans avoir de préconçu. Mais vraiment, donc, Les Héritages aux éditions Bourgois. Hop, hop.
Moi aussi, du coup, très rapidement, je recommande le livre que j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle « Balance ton corps », donc de la travailleuse du sexe et performeuse afroféministe Bertoul Borebec, chez La Musardine. Et donc, c'est un témoignage et un manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps avec cette expérience qui lui est spécifique. Donc, voilà. Je recommande.
Et toi, Kaouta ?
Je recommande un livre théorique, mais c'est un livre théorique qui est des plus salutaires, qui a été publié par la maison d'édition militante Anamosa, que vous voyez sûrement avec le petit format rectangulaire et noir. Et je conseille en particulier le livre de Sarah Mazouz, qui revient sur la question raciale et qui définit ce que signifie ce terme-là, race, au singulier. Donc, je dis ouvrage théorique parce qu'évidemment, il est question de revenir un peu sur les concepts, ce qui est une manière de contrer les discours conservateurs et en particulier racistes qui attaquent notamment le mouvement de l'antiracisme politique. Mais c'est surtout un ouvrage théorique qui est clair, qui est précis et qui peut, à mon avis, se lire sans forcément avoir une connaissance très étendue de ces questions-là. Donc, c'est plutôt une belle porte d'entrée pour essayer de comprendre de quoi il est question lorsqu'on dit question raciale.
Et toi, Clem ?
Alors, moi, c'est une BD qui s'appelle À volonté. Elle est écrite et dessinée par Mademoiselle Caroline et Matou. C'est aux éditions Delcourt. C'est une BD sur les micro-agressions que reçoivent les personnes grosses toute la journée, donc au bureau, chez le médecin, chez les potes, etc. C'est vraiment une très bonne introduction à la grossophobie ambiante. Achetez-le.
Allô, allô ?
Allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ?
Et alors, avant de se quitter, on a des questions d'auditeurs et d'auditrices, dont une pour toi, Adeline. Est-ce que la liberté que t'offrait la plateforme du blog te manque ?
Oui, clairement, parce que clairement, je pouvais mettre des photos dans le, enfin, vraiment dans le format que je souhaitais, parce qu'il faut savoir que sur Instagram, on est limité, c'est 4x5, ou carré, ou voilà, c'est quand même assez limité. Donc, on peut pas mettre de photos assez longues, où il faut voilà, créer un cadre et c'est pas très joli. Et encore, ça, c'est un point de détail, mais c'est surtout que maintenant, je suis obligée effectivement de censurer mes photos. Donc, sur la fin de ma série photographique du confinement, j'ai dû censurer forcément un sein, alors que c'est pour reprendre un tableau. Mais je suis obligée effectivement de censurer mes photos et en fait de soumettre aussi mon œil et mes photos à, à une réception potentielle. C'est toujours un peu un pari, alors que sur le blog, je me posais un petit peu moins la question. Aujourd'hui, j'essaie de ne pas la poser, mais c'est tout de même présent, quoi.
Merci beaucoup, en tout cas, Adeline, pour ta présence, pour le récit de tes expériences et puis pour ta participation. Un mot de la fin, peut-être ?
Oui, apprenez à virer les gens qui vous font mal vous sentir. C'est super important et je pense que, par exemple, moi, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise.
Voilà. Yes.
Super. Merci beaucoup.
Salut.
Ciao.
Salut le chien de Clémentine.
Quoi de meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode a été conçu et présenté par Clémentine Gallo.
Et présenté avec Pauline Verdusier,
Anne-Laure Pinault,
Kaouta Rarchi.
Et enregistré dans le cadre du Paris Podcast Festival sur Zoom. Merci à Adeline Rapon pour sa participation. Mixage Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Montage et coordination Ashley Tola.